sur un quatrième épisode de l'écosystème automobile. Et aujourd'hui, nous allons parler de la crêperie de l'énergie. 20 catastrophiques. L'industrie automobile espérait, il n'en fut rien. En flambée des prix des matières premières, c'est encore puisque l'on annonce déjà. Comment en sommes-nous pour automobile et les équipes traverser cette crise tout de suite avec Elisabeth IHS Market et directeur général de la plateforme d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Elisabeth. Elisabeth, vous êtes spécialiste de l'économique internationale pour des lieux de...
Oui, à ce matin. Donc, les problèmes relatifs à la disponibilité ont commencé fin d'année dernière, été catastrophiques. On a en fait, dès le troisième mai, beaucoup plus rapide que ce, tout en voyant également des repères de régions du monde. En tout cas, moins en parallèle des contaminations de régions du monde, ce qui est producteur du côté de l'acier, aluminium ou à relancer ce qui aurait entraîné des coûts de matières premières par rapport au temps de la demande dès le troisième trimestre, ajouter des problèmes d'achurbation du transport maritime, en l'occurrence qui font que les conteneurs transportant en vrac n'est au bon moment. Donc tout cela a provoqué auquel on répit sur certains marchés, mais de l'énergie ravive les inquiétudes.
Alors, quelles sont les matières
En l'occurrence, c'est vraiment, même si du côté de l'extérieur, on voit les producteurs aujourd'hui répondre, la plupart du raffinage, et là, aujourd'hui, on a clairement au fait que ces activités sont conséquentes, compte tenu des problèmes que la Chine connaît aujourd'hui au niveau du raffinage. Donc, à l'arrivée...
Alors, Marc, les matières essentielles dans l'industrie automobile, quelles sont les matières premières les plus importantes?
Voilà, alors vous le voyez sur ce graphique, plus qu'un véhicule, c'est du... etc. Mais il ne faut quand même pas avoir des matières premières. Vous voyez sur ce graphique hein, de 40 à 50% véhicule, hein, et puis au global, 70% hein, du poids global du véhicule. Donc, pour l'acier, par exemple, c'est à peu près 8%. Si le cours de l'acier double, ça peut avoir sur le coût final, hein, la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec plein d'autres sources d'augmentation que nous avons aujourd'hui, hein, augmentation du coût des véhicules qui génère voilà, une augmentation hein, de la valeur des véhicules, risque d'effet à la baisse. Sans que la question ne se pose pas immédiatement, c'est aujourd'hui limité par la pénurie dans un ensemble de contraintes de ce que l'on vit en ce moment.
Évoquer la pénurie des semi-conducteurs, ça c'est une autre crise. Elisabeth, est-ce que vous...
Donc la crise des semi-conducteurs suite à l'augmentation vraiment trop rapide, notamment aux États-Unis pour permettre d'assouplir de la pandémie pour les ménages, ont été injectés dans leur économie plus de 2 chèques de plus de 1 500 $. En l'occurrence, n'étaient pas mis comme ils le font d'habitude, puisque les activités primées par la pandémie donc, a été maintenue et entraîné une augmentation. Et des dépenses de câbles, ce sont des téléphones, ce sont télétravailler, ce sont des équipements ménagers en général, la plupart d'entre eux impliquant. Donc l'industrie automobile, à ce moment, par les fermetures des distributeurs, puis en fait de la filière quant à l'évolution de la demande, l'automobile a en fait annulé certaines commandes de semi-conducteurs, ce qui fait que les producteurs se sont retournés, entre guillemets, ou se sont déplacés vers cette demande de biens de consommation finale durable. Et tout cela a entraîné en fait une demande excessive de semi-conducteurs auxquels la chaîne de production ne pouvait pas répondre. Quelques petits un incendie au Japon et d'autres problèmes d'acheminement liés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, aux questions de transport, ont en fait aggravé le problème et font qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la pénurie de semi-conducteurs est nettement plus inquiétante et handicapante que les hausses de prix, puisque lorsqu'on a un vrai rationnement, les chaînes de production sont à l'arrêt.
Alors, Marc, les semi-conducteurs, concrètement, ça sert à quoi dans une voiture?
Oh, ça sert à beaucoup de fonctions. Il y en a absolument partout. Je prends l'exemple, par exemple, du dispositif de freinage, hein, ce qu'on appelle l'ABS, qui est un dispositif qui est assez sophistiqué pour éviter le blocage des roues hein, quand on freine un peu rapidement. C'est une quantité incroyable. Hein, je crois qu'il y a plus d'une centaine hein, de composants individuels hein, dans ce genre de dispositif. Mais c'est valable, évidemment, sur toutes les fonctions aussi d'entertainment, donc les interfaces utilisateurs dans le véhicule, les airbags et évidemment toutes les fonctions au niveau du moteur et de la conduite électronique. Et de toute façon, on est dans une tendance où ça va continuer à très très fortement augmenter parce qu'il y a de plus en plus d'intelligence dans un véhicule.
Alors, on a évoqué tout à l'heure, Elisabeth, les problèmes d'énergie. Alors, l'énergie dont les prix sont en très, très forte hausse, tout ça, c'est lié ou alors c'est encore un nouvel élément? Comment on en est arrivé à cette hausse de l'énergie?
Alors, la hausse de l'énergie est en partie liée, mais dépend aussi de facteurs qui sont mal tombés, j'ai envie de dire, puisque en termes conjoncturels, ce n'était vraiment pas le moment. Donc, l'Asie et l'Amérique latine souffrent cette année du problème d'un phénomène météorologique qui s'appelle la Nina, qui consiste à avoir des températures plus froides que d'habitude, et c'était déjà le cas l'an dernier en Asie, ce qui a entraîné une demande d'énergie plus forte de la part des ménages, notamment chinois. Et donc, cette hausse de la demande d'énergie par les ménages à cause des températures, combinée à une reprise très forte de la Chine, puisque c'est la Chine qui fournissait les ménages américains et européens en biens durables, comme je l'ai mentionné. Donc, cette hausse très forte de la demande d'énergie en Chine a été confrontée avec une volonté de décarbonation de l'énergie, donc de réduction de la génération électrique à partir de charbon. Et du coup, la Chine a augmenté sa demande de gaz. Donc, oui.
Alors, pourquoi là, tout à coup, c'est quand même pas le moment, pourquoi la Chine décide de réduire ses émissions de CO2 alors qu'elle s'en fichait jusqu'à présent et elle choisit ce moment pour réduire les émissions de CO2? Il se passe quoi?
Donc, en fait, c'est un affichage. Donc, on sait que toute la planète s'inquiète aujourd'hui des effets du changement climatique et la Chine donc, s'est engagée à réduire, à décarboner son économie à horizon 2060, donc neutralité carbone à 2060. Maintenant, la décision d'accélérer le processus, en fait, est liée en partie à une volonté de dépolluer l'atmosphère avant les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, et également relève en partie de problèmes géopolitiques, puisque la Chine importe beaucoup de charbon d'Australie et qu'aujourd'hui, ils ont mis un embargo sur les importations de charbon d'Australie pour des raisons géopolitiques, notamment le rôle que l'Australie joue en soutien aux forces américaines dans la mer de Chine. Donc, les tensions entre la Chine et Taïwan, c'est vraiment une mauvaise combinaison de facteurs qui fait que la Chine réduit sa consommation de charbon, objectif carbone étant affiché, mais d'autres facteurs entrent en jeu également, s'est tournée plutôt vers le gaz, d'où hausse du prix du gaz parce que la Russie a augmenté ses exportations vers l'Asie. Les centrales électriques en Chine, ayant aujourd'hui une hausse des coûts des matières premières, ne peuvent pas le répercuter vers le consommateur final parce que les prix sont régulés et qu'on essaye d'amortir l'effet pour les consommateurs finaux. Donc, ils ont réduit la production électrique.
Si je peux me permettre, Stéphanie, je trouve que c'est plutôt Elisabeth, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, malgré tout que la Chine cherche à réduire ses émissions de CO2. Mais le timing
n'est pas top. Hein.
Voilà, mais ce que je voudrais prendre comme exemple, cet exemple pour montrer que Il y a beaucoup de sens à ce qu'un certain nombre de productions soient rapatriées dans un pays comme la France. Absolument. Parce que, justement, on a en France de l'électricité qui est très peu carbonée, justement à l'inverse hein, de pays comme la Chine ou dans d'autres pays, même européens. Et que, voilà, on voit bien à quel point, si on veut avoir une politique cohérente qui, à la fois, continue à permettre de produire et de fournir les biens dont on a besoin, mais en même temps de tenir nos objectifs de baisse des émissions de CO2, il se trouve qu'on a en France un atout qui est considérable hein, pour tous les process qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. On a un véritable atout et il faut absolument qu'on réussisse à bien intégrer cet atout dans les choix qui sont faits en matière de localisation des activités. Et c'est pour moi vraiment une opportunité dans une réintégration sur notre territoire, en particulier de toute une série d'activités qui consomment beaucoup d'énergie, comme les batteries, par exemple. La fabrication des batteries, c'est une évidence que c'est un atout de les fabriquer en France grâce à l'électricité décarbonée que nous avons.
Alors, d'ailleurs, le président de la République a annoncé hier soir la construction de nouveaux réacteurs justement pour avoir une indépendance énergétique et pour atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà. Alors, peut-être quand même un mot par rapport à tout ce qu'a dit Elisabeth, à la fois les pénuries de semi-conducteurs, les hausses de matières premières, les hausses de l'énergie. La conséquence quand même concrète, et Elisabeth l'a dit, l'élément premier aujourd'hui, c'est la pénurie de semi-conducteurs. Très concrètement, effectivement, alors qu'on espérait, après cette chute historique en 2020, de plus de 25% de baisse du marché, récupérer 12-15%, peut-être une moitié, en tout cas, du chemin perdu l'année dernière, on va finalement finir l'année 2021 avec à peu près le même niveau extrêmement bas de 2020, donc deux années de suite historiquement basses. Et la conséquence de tout ça, c'est que nos entreprises, les fournisseurs de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, tournent au ralenti. Ils sont décrochés de l'ordre de 30%, au moins par rapport à, je dirais, un niveau normal, avec du coup des baisses importantes de volume, les hausses de coûts de matières premières, des stocks qui sont constitués, parce que tout ça en plus, c'est très compliqué de planifier les arrêts. Donc, c'est une désorganisation un petit peu globale et tout ça, ça pèse fortement sur la trésorerie des entreprises. Et donc, une des préoccupations sur lesquelles on travaille, c'est comment on aide et on accompagne ces entreprises pour qu'elles tiennent le coup, le temps de cette pénurie. Et malheureusement, beaucoup disent qu'elle va durer encore quand même un certain temps, en tout cas une partie de l'année 2022. Donc, il faut qu'on arrive à tenir et d'autre part, de recréer des conditions pour que nos fournisseurs soient capables de remonter en gamme assez vite, en volume, ce qui toujours nécessite pas mal de trésorerie puisqu'il faut racheter les matières, etc., pour qu'on puisse aussi profiter de la croissance quand elle va revenir. Parce que le paradoxe à l'heure actuelle, c'est qu'on n'arrive pas à produire les véhicules, mais les carnets de commandes, ils sont là. On a des carnets de commandes relativement importants. Donc voilà, on est dans cette problématique qu'il faut tenir et bien sûr aussi par ailleurs tenir les leçons de ce qui se passe en ce moment pour le futur.
Tout à fait. Donc, alors on dit souvent quand la Chine tousse, le monde entier s'enrhume. Alors c'est vrai à double titre avec l'histoire du Covid et l'économie, mais quand on vous écoute, Elisabeth, on a l'impression que vraiment c'est la Chine qui contrôle en fait tout ce marché des matières premières et de l'énergie.
En l'occurrence, on a une dépendance vis-à-vis de la Chine qui est clairement excessive et qui, ne devient évidente qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'Europe en importation de magnésium, 95% des importations de magnésium essentielles pour la production d'aluminium et d'alliages légers vient de Chine. Qui contrôle, je crois, 87% de la production mondiale. Donc, clairement, on s'est installé dans une dépendance très importante de ce pays, sans imaginer parce que Bakou, parce que on a sous-estimé la transition énergétique qui allait commencer chez eux. Donc, clairement, comme le disait Marc, il y a une vraie nécessité de repenser les différents éléments de la filière qui sont nécessaires pour l'industrie automobile et de relocaliser certaines activités et de faire en sorte que ces activités soient rentables. Donc, de ce point de vue-là, les décisions annoncées hier sont une bonne nouvelle.
Également, dimanche dernier, il y a eu une annonce de la part des États-Unis et de l'Union européenne qui ont mis fin à leur conflit commercial sur l'acier et l'aluminium. Et ils ont annoncé qu'ils allaient conclure un accord mondial pour une production décarbonée. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça aussi, pour les matières premières.
Oui, même si, en l'occurrence, ça prend un certain temps d'installer toutes ces capacités. Donc, ça ne sera pas nécessairement pour 2022 qu'on pourra voir une résolution. Et puis, je pense qu'on a quand même aussi été un peu refroidi par les dernières années aux États-Unis et les politiques américaines qui changeaient un petit peu de sens. Donc, je pense qu'il faudra une certaine prudence avant que les industriels ne s'avancent à 100% sur cette voie-là. Mais clairement, on rejoint cette nécessité d'une prise de conscience de l'importance stratégique des ressources et de pouvoir produire en Europe, peut-être pas nécessairement qu'en France, mais en Europe, de rapprocher un peu les productions des besoins finaux.
Alors, cette hausse du prix des matières premières et de l'énergie et cette pénurie de semi-conducteurs a une conséquence sur l'industrie automobile. Alors déjà, la première conséquence, c'est l'augmentation des prix, Marc.
Oui, absolument. Une des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a à court terme, mais aussi on y reviendra sur le plus long terme, beaucoup de sources d'augmentation du coût des véhicules, à la fois évidemment d'ordre réglementaire, au travers de plus en plus d'exigences en matière de sécurité, bien entendu, et c'est une grande priorité, mais ça induit évidemment à la fois éventuellement une augmentation du poids des véhicules et aussi une augmentation du coût. Et puis, il y a toute cette transition vers la neutralité carbone, vers donc la réduction des émissions, avec justement plusieurs aspects. Il y a l'aspect, et c'est le graphique que vous montriez, le fait que quand on passe d'un véhicule thermique, c'est la colonne de gauche, à un véhicule électrique, qui est la colonne de droite. D'abord, on voit que la partie rouge hein, qui est sur la gauche, c'est tout ce qui concerne finalement les composants de la motorisation thermique, bah, ça va fortement se réduire. Et donc, d'ailleurs, les entreprises qui travaillent spécifiquement dans ces domaines vont être très, très impactées. Et puis, il y a toute la partie verte qui est plutôt autour de l'électrique, l'électronique, qui effectivement va beaucoup augmenter. Donc, il va y avoir des perdants et des gagnants. Il faut s'adapter, évidemment, à cela. Mais d'une façon générale, il y a un écart de coût qui est important entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, et en particulier par le coût de la batterie. Donc, bien évidemment, il va y avoir beaucoup de gains de productivité, de réduction de coûts dans les années à venir, mais malgré tout, ça reste quand même un écart hein, qui est important. Et se rajoute à cela le fait que vous évoquiez il y a un instant la volonté que l'acier qui soit fourni soit de plus en plus décarboné, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'il faut être cohérent. Pour nous, il faut travailler effectivement sur ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, sur le panorama qu'on appelle 360, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'intéresser que aux émissions de CO2 à l'usage du véhicule, mais l'ensemble du cycle de vie. Et donc, c'est cohérent. Simplement, un acier qui est fabriqué par des processus décarbonés, ça va coûter plus cher. Donc, on a toute une série d'éléments qui vont conduire à l'augmentation du coût des véhicules. Et une des grandes préoccupations aujourd'hui, c'est que, je dirais, la grande réussite de l'industrie automobile du XXe siècle, ça a été quand même d'arriver à en faire un produit très démocratisé qui s'est énormément répandu pour permettre de bénéficier au plus grand nombre de cette faculté hein, de se déplacer, de liberté qui est extraordinaire. La grande difficulté aujourd'hui, c'est comment, effectivement, on va trouver le chemin pour réussir cette transition énergétique qui est nécessaire, absolument, effectivement, et l'industrie est complètement mobilisée là-dessus pour aller vers, effectivement, cette trajectoire de neutralité carbone. Mais comment nous allons préserver les conditions pour que le véhicule reste accessible au plus grand nombre, probablement dans des modes d'usage différents, de moins en moins en étant propriétaire, on aura de plus en plus d'autres types de formules, mais néanmoins, cet enjeu de continuer à être capable de fournir cet élément central finalement pour les mobilités de tout un chacun de façon accessible reste un enjeu absolument majeur dans toutes les discussions qu'on a à l'heure actuelle.
Alors, sachant qu'en l'occurrence, la chaîne de valeur du véhicule électrique est assez différente de celle des véhicules thermiques, puisqu'il y a tout l'enjeu de la batterie et des matériaux qui sont utilisés dans la fabrication des batteries. Donc là, on a également des risques dont il faut être conscient et auxquels il faut se préparer, puisque certains de ces matériaux, le cobalt, le lithium, le nickel, sont produits essentiellement dans des pays qui n'ont pas, je dirais, des conditions démocratiques équivalentes aux nôtres et qui sont sujets à des révisions de contrats de la part des autorités, des embargos sur l'exportation. Donc, on a un certain nombre de risques là également auxquels il faut penser pour s'assurer en fait d'un approvisionnement à long terme de ces matières. Donc, je pense au cobalt, au lithium et au nickel, comme je le disais.
Donc, Elisabeth, a tout à fait raison, disons, et c'est un des sujets de préoccupation qu'on a, ne pas s'exonérer de certaines dépendances pour tomber dans d'autres dépendances. Et effectivement, ces trois sujets sont importants. Par ailleurs, on a aussi pour les moteurs électriques l'utilisation d'aimants qui font appel à des terres rares. C'est également, disons, un sujet de préoccupation. Et donc, effectivement, il y a tout un travail à l'heure actuelle au niveau national, mais je dirais aussi nécessairement au moins au niveau européen, de voir comment on peut sécuriser les différents maillons de la chaîne sur effectivement des matériaux stratégiques qui vont être critiques pour gagner davantage en indépendance. Et on voit bien qu'une des stratégies pour l'industrie automobile aujourd'hui, c'est d'arriver à réinternaliser, réintégrer davantage la chaîne de valeur, parce qu'on voit bien aujourd'hui à quel point on est vulnérable. Il suffit qu'un des grains dans les milliers de composants qu'on a dans un véhicule qui manque un élément pour que ça pose des problèmes sur l'ensemble de la chaîne. Donc, il y a un vrai travail, disons, là-dessus, qu'il faut réussir à faire à l'occasion, finalement, de cette profonde transformation de l'industrie automobile où toutes les cartes sont rebattues et où il faut effectivement réussir, encore une fois, en utilisant l'atout que nous pouvons avoir de cette électricité décarbonée, puisqu'encore une fois, il ne faut pas oublier que toutes ces évolutions, c'est quand même pour lutter contre le réchauffement climatique et c'est un problème global. Donc, il ne faut surtout pas que ça se traduise finalement par ce qu'on appelle des fuites de carbone, où, OK, on baisse les émissions à l'intérieur de l'Europe, mais dans la pratique, elles se transfèrent ailleurs. Ça serait évidemment une catastrophe si on en arrivait là. Et donc, c'est important de bien réinternaliser l'ensemble de cette chaîne de valeur sur nos territoires.
Alors, on a vu l'une des premières conséquences donc, de cette pénurie et de ces hausses de prix, c'est donc la hausse de prix des véhicules, des voitures, qui ont pris 7 000 euros quand même en 10 ans pour atteindre un prix moyen de 26 789 euros. La voiture, ça devient vraiment un produit de luxe, Marc.
Alors, ça d'ailleurs, vous faites référence à des données qui concernent la période 2010-2020. Oui. Donc, c'est avant ce que nous vivons en ce moment.
Donc, et ça, c'est encore en train de monter.
Ah, la transition énergétique. Donc, c'est vrai, ça s'explique en particulier par l'évolution des réglementations, par aussi des attentes du consommateur sur des véhicules plus confortables, sécurisé, etc. Donc, effectivement, on a cette problématique. Et voilà, ce qui est aujourd'hui, disons, en jeu, c'est qu'on voit bien que la trajectoire pour le futur, il y a plein de sources possibles d'augmentation des coûts qui ne sont pas intégrés dans les chiffres que vous avez donnés sur 2010-2020. Et c'est vrai que on a un vrai défi autour de ça. Alors, vous avez là un graphique, par exemple, effectivement, sur la façon dont la composition d'un véhicule va évoluer en étant de plus en plus des véhicules électriques. On voit par exemple que le cuivre, on va en avoir de plus en plus besoin. C'est typiquement une matière première qui est coûteuse. Ça fait partie, disons, des éléments de préoccupation. Il peut y avoir là aussi des pénuries ou en tout cas des tensions sur les marchés qui génèrent des fortes hausses du cours des matières premières. Donc, voilà, c'est tout cet ensemble qu'il faut arriver à prendre en ligne de compte. Et évidemment, le consommateur, il va raisonner in fine de façon un peu globale sur le budget finalement de l'ensemble de son véhicule avec son entretien, avec surtout l'énergie qui va être utilisée. Et une des grandes questions, ça va être comment le transfert ou pas se fera des taxes qui aujourd'hui sont massives sur les carburants fossiles qu'on a, l'essence, le diesel. Est-ce que ces taxes vont à un moment ou un autre être répercutées sur l'énergie électrique qu'on va utiliser ou pas? Ça change beaucoup de choses dans la façon dont on voit l'évolution globale du budget qu'un consommateur devra consacrer à sa mobilité au travers en particulier de l'automobile avec toutes ces évolutions. Donc voilà, c'est plein de défis extrêmement intéressants. L'automobile, de toute façon, est complètement mobilisée là-dessus, mais c'est vrai qu'on a ce sujet de l'accessibilité au plus grand nombre.
Alors, la deuxième conséquence de ces pénuries et de ces hausses de prix, ce sont des problèmes de livraison. En fait, les constructeurs ont des parkings pleins, mais de voitures qui ne sont pas finies.
Alors, on a de toute façon des stocks à tous les niveaux de la filière, puisque c'est extrêmement difficile aujourd'hui de prédire vraiment à l'avance quelle va être la possibilité de produire ou pas les véhicules, puisqu'on est en permanence sous tension, en réactivité pour effectivement produire dès qu'on peut le faire. Et donc, on a, que ce soit chez les constructeurs, mais également chez les équipementiers, chez les fournisseurs, un certain nombre de stocks, parce que les commandes qui sont faites correspondent au potentiel de livraison et qu'on n'arrive pas à réaliser. Donc, effectivement, on a ces questions un peu de stock et qui sont d'autant plus préoccupantes que comme on est dans une période de hausse des cours de matières premières, c'est des immobilisations qui sont assez importantes.
Alors, vous venez de mentionner les équipementiers. Les équipementiers et les constructeurs ne sont pas dans la même situation. La situation est beaucoup plus compliquée pour les équipementiers, dont le seul driver de résultat, c'est en fait le volume. Tandis que, paradoxalement, les constructeurs ont l'air de tirer leur épingle du jeu et gagner de l'argent.
Alors, aujourd'hui, on est dans un contexte où, effectivement, les constructeurs, d'abord, très clairement, puisqu'ils ne peuvent pas tout produire, choisissent les véhicules qui ont le plus de valeur en priorité à produire, donc sur lesquels ils ont davantage de marge. Et ils ont aujourd'hui, effectivement, la capacité de répercuter ces hausses au niveau du consommateur, dans la mesure où tout le monde est un peu dans cette situation de pénurie d'offres. Et que globalement, tous les constructeurs ont besoin effectivement de dégager des résultats pour réaliser des investissements, mais massifs, qu'ils ont à faire pour réussir leur transition vers l'électrique. Donc effectivement, au niveau des constructeurs, on le voit, au niveau des résultats, c'est des résultats qui effectivement paraissent paradoxalement plutôt bons par rapport à la situation telle qu'on l'a décrit. Et à l'inverse, effectivement, l'ensemble des des équipementiers, des fournisseurs qui n'ont pas ce positionnement, souffrent effectivement des baisses de volume et de toutes les autres paramètres qu'on a évoqués jusqu'à présent. Et donc, effectivement, c'est une situation qui est tendue, qui est difficile. Et si elle perdure, elle a quand même des vrais risques de défaillance de certaines entreprises qui, encore une fois, pénaliseraient le redémarrage lorsque ça sera possible.
Alors justement, Elisabeth, est-ce que cette situation va perdurer ?
Alors, malheureusement, pour l'année prochaine, on annonce encore des pénuries par d'autres matériaux, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui, pour lesquels, là aussi, on voit une demande augmentée. Il faut savoir que la production de batteries a doublé tous les deux ans ces dernières années. Elle double tous les deux ans. Donc, je parlais tout à l'heure des matériaux nécessaires. La demande continuera à augmenter et l'offre n'est pas prête à s'adapter à cette vitesse-là. D'autres produits qui sont encore en forte demande, les aciers électriques, qui sont nécessaires là aussi dans plusieurs produits. Donc, le transport maritime nous annonce s'attendre à des perturbations maintenues jusqu'au milieu de l'année prochaine au moins. Parce que les ports sont engorgés, parce que les navires sont de plus en plus gros, donc prennent de plus en plus de temps à être déchargés, d'où une saturation des chaînes logistiques. Donc aujourd'hui, on n'aura pas en fait une résolution immédiate de la situation avant que la demande ne se calme significativement. Et on ne sait pas si on doit l'espérer ou pas, puisque de dire que la demande se calme voudrait dire que soit l'inflation a raboté le pouvoir d'achat, soit qu'on a une autre crise de Covid qui vient entraîner des restrictions d'activité. Voilà. Donc, en fait, il faut malgré tout un peu une pause dans la demande. Les espoirs sont qu'une normalisation de la demande, parce qu'aujourd'hui, elle est quand même exceptionnellement tournée vers des produits et pas des services. Donc, l'espoir, c'est que la reprise du tourisme, la reprise des activités sociales, culturelles, puisse dévier une partie du budget des ménages vers ces activités et soulager un peu les achats de biens durables que j'évoquais tout à l'heure et qui aujourd'hui se traduisent par des produits, des matières premières qui sont nécessaires et qu'on n'a pas.
Alors Marc, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. On a l'impression que les pure players, les nouveaux arrivants sur le marché, s'en sortent mieux que les constructeurs traditionnels. Comment vous expliquez ça ?
Alors, globalement, toute l'industrie automobile au plan mondial a été touchée, mais c'est vrai qu'il y a effectivement des différences entre les uns et les autres. Alors d'abord, ça dépend pour certains, ceux qui avaient des niveaux d'intégration plus ou moins fortes. Ça, c'est un premier élément, je pense. Le deuxième élément, effectivement, quand on pense à un groupe comme Tesla, qui ont eu une approche totalement différente et où ils ont, dès le départ, pris des stratégies où finalement une bonne part des fonctionnalités sont plutôt au niveau des softwares, donc du logiciel, plutôt que du hardware, et donc ont pu bien davantage que les constructeurs plus traditionnels, finalement, adapter les softwares sur des composants dont il y avait moins de problèmes de pénurie et donc contourner le problème, leur permettant de continuer effectivement à poursuivre leur croissance. Donc ça fait partie effectivement des éléments d'enseignement aussi à tirer. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde va vers davantage de software. C'est vrai qu'on se rend compte au travers, disons, de cet épisode, combien l'industrie automobile, qui a toujours été une très grande industrie au plan mondial, finalement, pour le secteur des semi-conducteurs, ne pèse pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des secteurs qui se sont tellement développés dans le domaine, effectivement, des smartphones, des ordinateurs, c'est bien durable, de grande consommation, avec souvent des technologies plus avancées et qui, donc, concentrent davantage les investissements nouveaux qui sont réalisés. Et donc, on a effectivement, disons, besoin de s'adapter est un des éléments avec notre évolution vers de plus en plus de besoins de semi-conducteurs. Nous avons aujourd'hui une stratégie qu'on a portée au niveau européen pour qu'on réinvestisse massivement en Europe pour des capacités de production qui correspondent aux besoins de l'automobile, parce que nous avons en Europe une industrie automobile forte. Donc, on a des besoins qui justifient des capacités de production. C'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on aille, et en particulier sur ce qu'on appelle l'électronique de puissance, parce que dans un véhicule électrique, il y a beaucoup de puissance électrique. C'est des composants spécifiques pour l'automobile. Et là, on a des points forts. On a des acteurs comme ST Microelectronics, par exemple, qui sont bien positionnés.
Il faut italien, oui.
Ces atouts. Voilà.
Alors, Marc, Elisabeth l'a dit, donc 2022, ça ne va pas s'arranger au niveau des pénuries et des prix. Comment voyez-vous l'année pour l'industrie, l'année 2022 pour l'industrie automobile?
Alors déjà, préoccupation de relativement court terme. On a besoin de prendre toute une série de mesures, et nous en discutons à la fois au sein de la filière et avec les pouvoirs publics, pour soulager autant que possible la trésorerie des entreprises. Parce qu'il y a des vrais risques de défaillance, et la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à savoir combien de temps ça va durer. On sait qu'en tout état de cause, pour la deuxième année consécutive, beaucoup d'entreprises du secteur automobile vont avoir des bilans fortement dégradés. Et on connaît la mécanique, c'est que du coup, ça incite moins les banques à prêter, dans ces secteurs-là. Et donc, on a absolument besoin d'avoir des dispositifs, et notamment à prolonger un certain nombre de dispositifs qui existaient pendant la crise Covid pour le secteur automobile, pour préserver autant que possible la situation de trésorerie des entreprises. Après, on va avoir besoin d'un grand travail de coordination et d'anticipation pour justement préparer la reprise, essayer d'arriver à bien jauger à quel moment on va pouvoir effectivement remonter en puissance au niveau de la production. Bon, je pense que, voilà, Elisabeth, IHS et autres, ben voilà, c'est leur métier de nous éclairer. Oui. Avec, en même temps, soyons tous modestes. On espérait à cette rentrée de septembre-octobre plutôt un peu mieux qu'avant. Et puis malheureusement, il y a eu l'émergence du Covid dans les pays d'Asie qui sont clés dans la chaîne d'approvisionnement, donc ça s'est beaucoup aggravé. On n'est pas à l'abri d'autres événements, mais on n'est pas aussi à l'abri de bonnes nouvelles parce qu'il y a des nouvelles capacités de production qui vont rentrer, disons, en service. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'on est dans un monde qui est très incertain, mais on a besoin de piloter, donc on a beaucoup d'espace de discussion à l'intérieur de la filière, mais aussi avec les autres, y compris évidemment avec la filière électronique, pour pouvoir préparer l'avenir. Et l'autre élément, c'est qu'il ne faut pas que cette période qui nous affaiblit de façon conjoncturelle n'empêche les entreprises d'investir sur ce qui est nécessaire de faire pour s'adapter, cette fois sur la transformation structurelle, donc que ça soit sur la R&D, que ça soit sur les investissements productifs à faire, que ça soit aussi sur les compétences. Il se trouve un peu paradoxalement aujourd'hui qu'on a pas mal de salariés qui se retrouvent régulièrement en activité partielle, parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail. On fait beaucoup d'efforts en ce moment pour voir comment utiliser ce temps finalement dégagé pour qu'il soit utile au travers de formations pour pouvoir préparer l'avenir. Voilà tous ces défis que nous avons à l'heure actuelle. Il faut garder le moral parce que de toute façon, encore une fois, le carnet de commandes, il est là. De toute façon, les gens, ils ont besoin de voitures, donc ça va redémarrer, mais il faut trouver les dispositions pour, je dirais, tenir le coup pendant cette période qui est vraiment extrêmement difficile pour tous les maillons de la chaîne de l'automobile.
Oui, en fait, on est vraiment dans une crise inhabituelle. Je pense qu'il faut souligner, ce n'est pas une crise de demande. On a eu l'habitude dans le dernier cycle économique d'avoir des cycles qui étaient un retournement de la demande. Ici, la demande, elle est là. Donc, en l'occurrence, il faut aider les entreprises à passer le cap de pénurie d'offres qui les empêchent de produire pour qu'elles soient prêtes à relancer la production dès que ces pénuries sont résolues.
Alors, en espérant que la production soit très vite relancée, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Très bonne journée et je vous donne rendez-vous à 17h30 pour parler de la libéralisation des pièces visibles dans l'automobile avec la FIEV. Merci à tous.
Merci beaucoup.